Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien, mais bonjour, bonjour à toutes et à tous. Après les Pyrénées, nous allons faire une visite à nos voisins corréziens. Arrivons à la mémoire de Marguerite Priolot. Alors Marguerite Priolot, elle est née en 1890 à Brive, où son père était médecin. Alors, passionné par la langue régionale, il sera le mécène d'auteur en occitan. Sa mère, Thérèse d'Artensec, originaire de Manzac-sur-Vern, donc en Dordogne, sera pendant une quinzaine d'années reine des faits libres Limousin. Marguerite succédera à sa mère avant de devenir reine du Félibrige en 1913. Alors rappelons que le Félibrige est né d'où vient le mot Félibre, est une association pour la connaissance des langues occitanes. Elle fut créée par Frédéric Mistral et quelques autres en 1854 et existe toujours. Alors donc cette même année, donc en 1913, dans le cadre d'une collecte sur langue régionale, sa voix sera enregistrée par le linguiste Ferdinand Bruno. Et l'on peut écouter ces enregistrements sur Gallica, tout simplement. Alors, 1913 sera une année faste pour Marguerite. Alors, de retour du Midi, cette année-là, le président Raymond Poincaré fera une halte à Brive. À cette occasion, elle offrira des fleurs à Madame Poincaré et sera à sa table lors du banquet avec le maire de Brive et le ministre de l'Intérieur qu'elle accompagnera à la sous-préfecture en habit et coiffe régionale, c'est-à-dire avec le barbichet. Et évidemment, en coiffe régionale, comme il se doit, et elle sera présente au rendez-vous de la presse et se produira au théâtre de Verdure. Alors en plus, ce sera une patriote dévouée. Lors de la Première Guerre mondiale, elle s'engage aux côtés de la Croix-Rouge et pour soutenir l'œuvre de guerre de bienfaisance, des pièces de monnaie en carton seront éditées à son effigie par l'Union commerciale de Brive. Comme ça, en 1915, elle fait paraître en occitan avec traduction en français « Les gens de Limousine », puis en 1916, « Comte du Marguillier », qui ne seront pas malheureusement réédités. Mais je pense que l'humour du début du siècle dernier n'est peut-être pas tout à fait le même que celui d'aujourd'hui. Alors les couvertures seront signées, les couvertures de ces livres seront dessinées par le critique et peintre et historien d'art Édouard Gaillot, qu'elle épousera le 29 mars 1917. Le mariage aura lieu à Périgueux. Le couple aura 3 enfants et séjournera à Lyon et à Nice, puis s'installe à la maison familiale périgourdine, donc à Marzac-sur-Verdre. Marguerite décède en 1955 et sera inhumée donc à Marzac. Une cérémonie du souvenir aura lieu en 2019, en présence du capoulier du Félibrige, de nombreuses personnalités occitanes et de sa descendance. Alors de ces deux ouvrages, « Légende Limousine » et « Comte du Marguillier », l'on peut retenir la fin de la préface, donc, de « Comte du Marguillier ». Alors voilà, la fin de cette préface, elle est en conversation avec une amie qui s'appelle Lamion, M-I-O-N, Lomion, en occitan. « Et la bonne Mion se mit à rappeler pour moi, peut-être pour elle, ses souvenirs d'enfant. Et en effet, ces contes me parurent charmants, si charmants que j'ai voulu les mettre par écrit de peur qu'ils ne se perdissent. Vous savez ce que dit le proverbe, nous avons plus de temps à demeurer couchés que levés. Tant que nous sommes debout, il n'est pas défendu de rire un peu honnêtement. C'est pourquoi, lecteur ami, et afin de nous distraire en bref, j'ai recueilli ces contes du Marguillier. Comme je vous l'ai dit, ils me furent contés le soir à la veillée par la fille même du Marguillier, une bonne personne, vous pouvez m'en croire, qui aujourd'hui a plus de tête que de jambes, mais qui était une fine jeunesse du temps que notre ville n'avait que 7000 âmes et que tout le monde se connaissait à Brive. Ah, le bon temps, le bon vieux temps, comme acheva la comtesse en français pour me faire honneur, la comtesse, pas la comtesse. Alors, il y a une petite note, nous dit que le Marguillier est employé ici dans le sens de sacristain, par analogie avec le Limousin Mérillier. Cette assimilation est d'usage courant dans nos campagnes. De toute façon, le Mérillier, il y avait le Suisse aussi pour les grandes cérémonies de l'Église, autrefois. Bien, alors, de ces contes, mais j'en ai retenu un, l'âne de Peyrounet. Comme vous le savez, mon père était marguillier de Saint-Martin du temps de M. Barrière, celui qui fut curé de Brive avant M. Broquin. Ah, c'était un bon temps où l'on savait s'amuser, et honnêtement. Tenez, le bon monsieur Barrière, son plus grand plaisir était d'entendre mon père chanter la préface. La préface, c'est une partie de la messe. Il ne pouvait pas s'en contenter. Il faut vous dire que la préface est le plus beau chant de toute la messe avec une belle voix. Comme mon père était potier de son état, monsieur Barrière venait à l'atelier le matin, prenait une chaise et tout de suite, « Alors, Coutissou, chante-moi la préface !» Et mon père commençait. Il aimait ça aussi et il la chantait bien. Le bon monsieur Barrière s'épanouissait, il était heureux, heureux, et tous les jours c'était de même. Comme mon père travaillait beaucoup et d'un métier fatigant, vous pouvez m'en croire, il s'éveillait difficilement, quelquefois le matin, pour aller sonner l'Angélus. Ce n'est pas qu'il lui fit peine de se lever, mais quand il était endormi, ben ma foi, l'heure passait. En ce temps, nous habitions aux Trois Torchons, au-delà du pont. Vous savez, il y avait là un pauvre innocent que mon père connaissait bien, et tout le monde également, et il s'appelait Peyrounet, et s'en allait chaque matin avec son âne et une petite charrette ramasser le fumier qu'il trouvait sur la route. Chaque fois que mon père était éveillé, il entendait sous sa fenêtre « Hé, hé, hé !» criait-il en piquant son âne. Cela lui donna une idée. « Dis-moi, Peyrounet, fit-il, tu te lèves de bien bonne heure. Ben, il faut bien, mon pauvre Catissou, pour ramasser ce que les rouliers ont laissé sur la route. Après, il serait trop tard, il n'y aurait plus rien. » Et je n'ai que ça pour vivre avec mon petit coin de terre. Oui, dit mon père, eh bien, ça ne te dérangerait pas si tu voulais chaque matin m'appeler. En passant, je te donnerai quelque chose à la fin du mois. Avec plaisir, mon brave Coutissou, je le ferai avec grand plaisir. Ainsi, vous comprenez, mon père pouvait dormir tranquille. À cette époque, il y avait tout le long de la route de beaux hommes vieux et de je ne sais quand et qui ont été remplacés, les imbéciles, par ces platanes qui ne sont bons à rien. Et ils ne savent pas même ce qu'ils font. Enfin, le matin, en arrivant sous nos fenêtres, mon Peyrounet s'arrêtait et adossé à un gros homme, cria à mi-voix, « Coutissou, Coutissou !» Il faut vous dire que le pauvre homme parlait du nez, et ce qui était comique, car son nez, ce n'était plus qu'une chevillette de rien, comme s'il n'y en avait pas du tout. « Coutissou, Coutissou, levez-vous, s'il vous plaît !» Aussitôt éveillé, mon père se mettait à chanter, et à l'entendant, Peyrounet s'en allait avec son âne, faire sa récolte peu tentante. Un jour, mon père, qui avait mal dormi, s'éveilla plus tôt que de coutume. Il chantait la préface pour s'éclaircir la voix quand il entendit appeler « Hé, Coutissou, hé, Coutissou !»« Bonjour, Peyrounet, bonjour !» cria mon père. Cette espèce de toquet ne m'entend pas et pense m'éveiller avec sa voix de croque-mort. « Coutissou, Coutissou !» pleurait la pauvre voix. « Eh bien, qu'y a-t-il ? » dit mon père en ouvrant la fenêtre. « Ah, Coutissou, on m'a volé mon âne, je ne le trouve plus. »« Comment ? Tu as bu si matin, eh bien, mon vieux ?»« Non, non, Coutissou, je n'ai rien bu, mais je ne trouve plus mon âne. »« Tu ne trouves plus ?»« Non, je ne le trouve plus, je te dis qu'on me l'a volé. »« On m'a volé mon âne, mon pauvre Batissou. »« Que ferais-je, grand Dieu ? Que ferais-je sans mon âne ?» Ça faisait peine à l'entendre. « Alors, je descends, dit mon père. Nous allons voir ensemble si on peut le trouver, ton âne. »« Et il faut bien en convenir, Batissou. » n'était plus dans son écurie ni nulle part dans le voisinage. Sitôt que s'éveillait l'innocent Peyrounet, ce matin, quelqu'un s'était levé plutôt que lui. En s'en allant vers l'église pour sonner l'Angélus, mon père ne pensait qu'à la douleur de Peyrounet. Que ferait-il en effet sans son âne, ce pauvre innocent ? Il ne serait guère à son aise maintenant qu'il ne pouvait plus ramasser son crottin. Aux portes de la Corrèze, il rencontra M. de Bonavis, premier vicaire de la paroisse, un brave homme, s'il y en avait, bon comme le pain qui est mis à rire, comme tout le brave monde en ce temps. « Eh bien, Coutissou, dit-il, vous n'y pensez plus, il est 5h15, mais ne m'en parlez pas, monsieur l'abbé. Je me suis attardé avec le pauvre Peyrounet, vous savez, l'innocent des Trois Torchons. On lui a volé son âne, et je l'ai assez cherché avec lui, mais nous n'avons rien trouvé. » Et comme ils entraient dans la sacristie, ils trouvèrent deux autres vicaires et voulurent connaître la ferme. Mon père la conta tout au long à ces messieurs qui riaient à s'en tenir les côtes. Tout de même, dit M. de Bonavis, le pauvre homme est à plaindre, c'est une forte perte pour lui. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais à mon avis, ce serait une bonne œuvre de lui rendre son âne. Son âne ou un autre, mais de même étoffe qu'il pût le remplacer. « Mais raison, ajouta le second vicaire, un petit qui était le plus farceur de tous. Vous avez raison. Nous dirons qu'en priant bien la Sainte Vierge, son âne reviendra sûrement à l'écurie, et quand il le verra revenu, il criera au miracle. » C'est pas impossible, dit monsieur de Bonavide. Tout de même, pour être plus sûr, il nous faut trouver un autre âne. Dis-moi, Coutissou, quand est la foire la plus proche? Après-demain, monsieur l'abbé, c'est la foire de Brive. Eh bien, Coutissou, toi qui t'y connais et qui as bien vu l'âne de Peyronnet, tu t'en iras sur le foirail, derrière le château d'eau, et tu achèteras un d'âne, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de ton ami, tu comprends? Comme deux gouttes d'eau. T'es pas tellement fort, et l'âne de Peyronnet, dit l'autre vicaire, celui qui n'avait encore rien dit, et dont je ne sais plus le nom. Il ne devait pas être des plus gros, son frère ne lui coûtera pas les yeux de la tête. Alors, c'est entendu, demain nous donnerons ce qu'il faut pour l'acheter. Tout bien compris, et l'argent de ces beaux messieurs dans sa poche, mon père aujourd'hui s'en alla au foirail du premier coup. Il y trouva un âne ou une ânesse, je ne me souviens plus, qui ressemblait à celui de Peyronnet, que c'en était merveilleux, même poil grisâtre, même cupelé et rogueux. Les yeux chassieux en plus. Enfin, deux gouttes d'eau, comme avait dit monsieur le vicaire. Voilà mon affaire, pensa mon père, il tâta la bête, la paya sans trop compter, la remisa dans une écurie et courut chez les vicaires qui, comme le pensaient, voulaient être de la fête. Le lendemain, il n'entendit pas le jour, il se leva vivement, alla chercher son âne et l'attacha à un anneau près de la porte de l'innocent. Ces messieurs de dernière guerre arrivaient, ils se cachèrent derrière les grands hommes pour ne rien perdre de ce qui allait se passer. Aussitôt, mon père, qui ne se tenait plus, se mit à crier « Peyronnet, Peyronnet, ton âne est revenu, viens le voir !» Rien ne bougea dans la maisonnette. « Il ne peut pas être sorti à cette heure, » dit mon père, et de nouveau il cria une voix à réveiller les morts. « Peyronnet, oh Peyronnet !» Cette fois, on l'entendit, un bruit de gros sabots, une lucarne tout en haut s'ouvrit, et la tête de Peyronnet s'avança, ensommeillée, les cheveux pleins de paille. « C'est vous, Coutissou, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal dormi, je rêvais de mon âne. » « Ton âne, mais il est revenu, tu ne l'as pas vu ?»« Pourquoi vous moquez de moi, Coutissou? Ce n'est pas bien de vous. Vous savez bien qu'on me l'a volé, mon pauvre Baptistou. Jamais je ne le reverrai, bien sûr, jamais je ne le... »« Mais ton âne, mais âne toi-même, dit mon père, qui l'a attaché là à ton âne. Ce n'est pas toi, viens, imbécile, vois-le, regarde ici, près de la porte. » Soudain troublé par tout ce bruit, le nouveau Baptistou, les pieds écartés, la queue raide se mit à brère de la même façon. « Ian, Ian !»« Mais, ah, mais c'est mon âne, mon Dieu !»« Sainte Vierge, c'est mon âne !» cria Peyronnet, les bras en l'air, fou de joie. Et l'on entendit le tonnerre des sabots dans l'escalier. Mon père n'en pouvait plus, et les vicaires pliés en deux, à force de rire, s'approchaient pour mieux voir. Quand Peyronnet arriva comme une flèche, il se jeta à genoux en pleurant. « Baptistou, mon pauvre Baptistou !»« Attendez un peu, brave homme, dit monsieur de Bonavis, attendez. Vous êtes bien sûr que cette âne est le vôtre, vous ne vous trompez pas ?»« Ah que non pas, monsieur l'abbé, c'est bien mon Baptistou, voyez ses oreilles, sa queue, ses yeux, tout le pauvre innocent à la Sainte Vierge m'a entendu. »« Oui, dit le petit vicaire, mais fais attention, ce n'est pas une raison parce qu'on t'a volé ton âne pour prendre celui du voisin. Regarde bien, les gendarmes ne plaisantent pas, tu sais. » « Ah, monsieur l'abbé, c'est le mien, c'est mon pauvre, c'est le même Baptistou. » Et le pauvre Toquet embrassa l'âne par le cou en lui baisant les naseaux en pleurant. « Ah, Peyronnet devant ces messieurs, dit mon père. Alors, sois raisonnable un peu, je vous demande bien pardon, messieurs la compagnie. Mais voyez, en parlant par respect, je l'aimais comme un frère, et de le voir revenu, ça me brouille la cervelle. Jamais je n'aurais cru le revoir. » Ah, la Sainte Vierge m'a entendu, ou plutôt, elle a entendu les bonnes prières de ces braves messieurs, et c'est pour eux qu'elle a fait le miracle. Alors, ça va bien, dit monsieur de Bonavis, mais l'heure passe, Coutissou, il faut sonner l'Angélus. Laisse ce brave homme avec son âne, et après la messe, tu l'amèneras au presbytère pour prendre le café, c'est moi qui paye. Et ces messieurs se retournèrent aussitôt, contents comme Baptiste, disait comme il redit mon père. Quand le bon monsieur Barrière apprit l'histoire, il en passa à faire sauter le boutonmètre. Ces braves enfants, dit-il, c'est vrai qu'ils en feraient des miracles, mais je leur défendrai d'en faire trop souvent. En deux coups, ils seraient ruinés. Alors voilà l'affaire donc de l'âne de Peyronnet. Et c'est tiré donc du conte du Mérillet de Marguerite Priolo. Quant à moi, ben, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Couvrez-vous parce qu'il ne fait pas très chaud. Et donc, à bientôt.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.